sur le site de la ville vos marchands de courgettes et de tomates. Mais enfin, je vous passe la parole pour la suite donc de cet exposé. Nous allons voir maintenant comment une très grande collectivité territoriale, la ville de Paris, conçoit cette approche. Peut-être de manière un peu différente que celle d'État Lab. À vous.
Merci, Monsieur le Président. J'ai une présentation, le projecteur chauffe, mais je vais commencer pour ne pas perdre de temps. Je suis Georges-Étienne Faure, je représente ici Jean-Louis Missica, qui est l'adjoint au maire de Paris, en charge de l'innovation, de la recherche et des universités, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui, puisqu'il est en séance du Conseil de Paris. Je viens vous présenter la démarche d'ouverture des données publiques de la ville de Paris. Je commencerai évidemment par un petit historique, puis, puisqu'on est dans un colloque sur notamment les aspects juridiques, un petit focus sur le travail qui a été réalisé sur la licence à donner sur ces données, évidemment un point sur la gouvernance et l'organisation du projet, puis un état d'avancement rapide, concrètement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et où en sommes-nous aujourd'hui, quelques cas pratiques qui peuvent fixer les esprits, et puis évidemment une ouverture sur les questions en suspens. Alors, concernant l'historique, là, je vais vous parler de la préhistoire de l'open data en France, puisque finalement, aujourd'hui, on régresse, puisqu'on commence par État Lab, qui a été l'initiative la plus récente des trois qui vous seront présentées aujourd'hui, puis la ville de Paris, puis les États-Unis, qui étaient finalement les précurseurs. Alors, la première intention du côté de la ville de Paris, c'était en décembre 2009, avec une réalisation de l'importance de la question d'ouverture des données publiques, un portage initialement politique, contrairement à d'autres endroits comme Rennes, qui s'est lancé à peu près en même temps que nous, un peu avant, vous dirait-il, et qui, eux, étaient sur une initiative qui partait des services, et notamment du transporteur qui a souhaité lui-même ouvrir ses données publiques, Keolis. À Paris, il s'agissait essentiellement d'une initiative politique, au départ. Les convictions qui portaient ce projet, Alexandre en a déjà en partie parlé. Il y a évidemment une mise en valeur du patrimoine immatériel que représentent ces données publiques. Nous, on considère bien cela comme un patrimoine, et on considère cela comme un patrimoine qui est la propriété déjà des Parisiens, puisque c'est un patrimoine qui a été constitué avec leurs impôts. Il n'est donc évidemment pas question de le leur vendre, puisque ce sont déjà eux les propriétaires. Accessoirement, puisque le monde entier a des droits sur Paris, on considère que ce n'est pas seulement un patrimoine des Parisiens, mais aussi un patrimoine de tout le monde. Il y a évidemment un souci de transparence démocratique, je m'appesantirai pas du tout là-dessus, une idée de soutien aux entreprises, mais aussi aux chercheurs et aux journalistes. Il y a des données qui peuvent être de très grande valeur pour les chercheurs, j'y reviendrai sans doute un petit peu plus tard, et puis il n'est pas particulièrement non plus question de vendre les données aux entreprises, puisque dans le même temps, nous avons toute une politique de soutien aux jeunes entreprises innovantes, donc on ne peut pas en même temps leur accorder des facilités et les taxer à nouveau, puisque ce sont des entreprises qui payent des impôts également dans la collectivité parisienne, les taxer à nouveau pour accéder à des données. Il y a, et c'est peut-être un angle un peu original par rapport à ce qui vous a déjà été dit, un aspect d'innovation ouverte. Quel est le principe de l'innovation ouverte? C'est que l'intelligence collective à l'extérieur des organisations sera toujours, par addition, supérieure à l'intelligence et à l'expertise développée à l'intérieur des organisations. On a une conviction fondamentale qui est que, par exemple, ce n'est pas le métier d'une ville, de la même façon que ce n'est pas le métier de l'État, de développer des applications sur téléphone mobile. C'est pas son métier fondamental et c'est surtout pas sa compétence. Je pense qu'un certain nombre d'administrations l'ont prouvé année après année. Je ne parle pas évidemment des missions fondamentales. Par exemple, il me semble hors de question que des choses comme commander un acte d'état civil soient externalisées. En revanche, tout ce qui est service d'information sur téléphone portable, tout ce qui est, je ne sais pas, horaire des piscines, etc., moi, j'ai coutume de dire que la mission fondamentale d'une ville, comme la ville de Paris, c'est de construire des piscines qui sont propres, qui sont belles, qui sont chauffées, qui sont utilisables, qui sont ouvertes le plus souvent possible. C'est pas la mission d'une ville de développer l'application sur smartphone qui va permettre à n'importe quel utilisateur, n'importe où il est, de voir la piscine la plus proche, ouverte, sur des créneaux non scolaires, etc. Il y a des gens qui feront ça très bien, volontairement, gratuitement et bien mieux que nous. Donc, là-dessus, nous avons une vision assez libérale de la chose, qui est que l'innovation ouverte peut apporter un vrai plus en termes de fonctionnalité aux Parisiens, en termes de service aux Parisiens, et évidemment aux touristes et à l'ensemble de la communauté. Et point très important dans le contexte économique qui est le nôtre aujourd'hui, sans impact budgétaire pour les services de la collectivité. Quand la ville de Paris décide de développer l'application Android Piscine Paris, ça a un coût. Souvent pas négligeable d'ailleurs, du fait des marchés publics, il y a un certain nombre de gens qui profitent largement de certaines méconnaissances techniques ou d'un marché porteur, quelle qu'en soit la raison, ça a un coût certain. Alors que si la collectivité considère de sa responsabilité de fournir les données de base pour le développement communautaire ou privé d'un certain nombre de services, le coût est à ce moment-là à peu près nul. Donc, pour continuer dans ce petit historique, suite au développement de ces valeurs, l'accord de principe du maire de Paris a été obtenu au printemps 2010, puis une délibération a été proposée au Conseil de Paris en juin 2010 pour acter à la fois le principe de lancement d'un projet d'ouverture des données publiques et les grandes lignes de la démarche. Mais c'était uniquement le lancement d'une démarche projet. Cette démarche projet comporte évidemment une gouvernance. On est resté dans une structuration très simple, hein, même si la ville de Paris est une grosse administration de 50 000 personnes. Pour autant, on a une taille quand même plus modeste que l'État. Donc il y a eu une gouvernance portée par l'élu en charge de la question, Jean-Louis Missika, son cabinet, le cabinet du maire et le secrétariat général de la ville de Paris. Il y a évidemment eu plusieurs composantes qui se sont déroulées en parallèle. D'une part, un travail sur la licence. On verra que c'est un point crucial. C'est évidemment un travail qui a été mené par notre direction des affaires juridiques. Un premier recensement des données disponibles, puisqu'on commence systématiquement par ce qu'on appelle les low-hanging fruits, enfin ce que les anglo-saxons appellent les low-hanging fruits, les fruits les plus proches du sol, ceux qu'on peut cueillir assez facilement. Il n'y a aucune raison, et je réponds en cela à la question de monsieur, on ne va pas commencer par le plus difficile, on commence par ramasser ce qui est le plus près du sol, sans faire de sélection, et puis après, on ira chercher, ou en parallèle du moins, on lancera le travail pour aller chercher les fruits les plus proches du soleil, qui sont peut-être les plus juteux, mais qui sont aussi les plus complexes. Donc un premier recensement des données avec notre direction informatique, qui essaye de centraliser, on verra tout à l'heure que l'open data a un impact aussi là-dessus, essaye de centraliser les systèmes d'information de la ville de Paris. Évidemment, une maquette du site, et puis un travail de sensibilisation des directions de la ville de Paris qui est très important, puisque on a souvent un certain nombre de réflexes dans toutes les administrations de Paris, de France et du monde, qui sont des réflexes d'un certain protectionnisme sur les données qui représentent leur travail au quotidien. L'impact budgétaire, et je vais en profiter pour répondre à la première question qui nous a été posée tout à l'heure, l'impact budgétaire du projet, la ligne dégagée pour le projet d'ouverture des données publiques de la ville de Paris est de 0 euro, 0 centime. C'est-à-dire que tout a été fait en interne. Évidemment, il y a eu un certain impact en termes de temps homme, mais il n'y a pas eu de ligne budgétaire dédiée. Ce qui veut dire que même si cela a un certain coût pour les administrations, coût en temps humain, il n'y a que du bénéfice. Et on verra tout à l'heure que les bénéfices sont tout de même relativement nombreux. L'étape suivante, c'est l'adoption de la licence par le Conseil de Paris en décembre 2010, puis finalement l'ouverture du site Paris Data en version bêta également, puisque c'est la mode, hein, d'ouvrir en bêta comme ça. S'il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas notre faute, c'était une bêta, en janvier 2011. Alors, concernant la licence, vous le comprendrez très vite à mon discours, je ne suis pas juriste, et je n'ai que très peu de compétences juridiques, donc je considère le droit comme un outil au service d'un projet et non pas comme une fin en soi. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas allés voir nos juristes en leur disant « on envisage de faire ça, dites-nous ce qu'on doit faire ». On est allé voir nos juristes en leur disant « voilà ce que nous voulons faire, voilà comment nous voulons le faire, trouvez-nous le texte le plus adapté à ce problème ». Alors, les prérequis que nous leur avons fixés, ils sont assez simples, finalement. D'une part, la nécessité d'utiliser une licence libre. Alors, ça semble un terme assez flou et vague, mais la communauté du libre, la communauté des réutilisateurs, a des critères très précis sur ce qu'est une licence libre et ce que n'est pas une licence libre. D'autre part, le plus possible, ne pas réinventer une licence, ne pas créer une nouvelle licence. Alexandre l'a dit tout à l'heure, l'importance, c'est de pouvoir enrichir les travaux en croisant des données de sources différentes. Si chaque jeu de données qu'on souhaite croiser a une licence différente et potentiellement incompatible, cela veut dire qu'à minima, il faut, avant de les croiser, réaliser une étude juridique pour vérifier la compatibilité entre elles des licences. Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire ça, etc. Et du coup, on se retrouve dans un système de plus petits dénominateurs communs qui empêche tout travail de croisement. Évidemment, permettre tout type de réutilisation, y compris des réutilisations commerciales, mais aussi, dernier point, fournir une relative sécurité pour les services, c'est-à-dire que la ville souhaitait se prémunir d'usages du type marchand de liste. C'est-à-dire quelqu'un qui aspirerait des données, déciderait de changer les en-têtes de colonne, de mettre quelques couleurs dans le tableau et de revendre cela. On sait que ça existe beaucoup dans le domaine de l'immobilier, notamment les marchands de liste. C'est une chose contre laquelle on souhaitait se prémunir. La méthodologie qu'on a proposée à notre direction des affaires juridiques, c'est évidemment une consultation de la communauté des réutilisateurs, puisqu'il y a des universitaires brillants qui sont spécialistes des licences libres, puis un travail plus resserré entre notre bureau de la propriété intellectuelle et ses juristes spécialistes autour du choix d'une licence appropriée. Alors, la licence qui a été finalement retenue, pour des raisons que je ne vais pas vous détailler, mais en gros l'idée était que c'était une licence qui existait déjà, qui fournissait fonctionnellement tout ce que nous pouvions souhaiter, qui était déjà reconnue par la communauté et qui était vraiment adaptée aux données, puisque énormément de licences, notamment la plupart des Creative Commons, sont, Alexandre l'a dit, beaucoup plus orientées vers le contenu, les textes, les images, avec une notion de propriété intellectuelle qui existe, de ce que je comprends, hein, puisque, à nouveau, je ne suis pas juriste, beaucoup moins dans une base de données. Alors, cette licence a été réalisée par l'Open Knowledge Foundation, et l'idée, c'est qu'elle garantit une réutilisation libre, y compris commerciale, avec un certain nombre d'obligations. D'une part, l'obligation de citer la source, mais aussi l'obligation de partage à l'identique. C'est un terme que vous retrouverez souvent dans le monde des licences libres. C'est ce qui s'appelle le share alike. Ce partage à l'identique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'évidemment, la valeur ajoutée par le réutilisateur peut être payante. Quelqu'un qui prend des données et réalise une application avec ces données peut très bien vendre cette application. En revanche, les données elles-mêmes, y compris les éventuelles améliorations apportées, doivent-elles, elles republiées pour la communauté, sous la même licence. Ce qui veut dire que les données restent perpétuellement libres et qu'il ne peut pas y avoir de privatisation des données et qu'il y a nécessairement un retour à la communauté s'il y a enrichissement. Et le travail évidemment réalisé, puisque cette licence était une licence à la fois en anglais et basée sur le droit anglo-saxon, comme souvent, le travail réalisé a été avec la communauté de traduire cette licence de l'anglais au français, mais aussi de l'adapter du droit anglo-saxon au droit français, ce qui n'est pas toujours évident, me disent les experts. Alors, côté gouvernance, j'en ai dit déjà un petit mot tout à l'heure, il y a évidemment un comité de pilotage qui est composé de l'élu en charge des différents cabinets, le sien, celui du maire de Paris, etc., du secrétariat général et des différents services impliqués. La structure opérationnelle aujourd'hui est assez proche, même si sans doute un peu plus légère, de celle d'Etalab, c'est-à-dire un réseau des correspondants avec une animation par le secrétariat général. Dans chaque direction, dans chaque silo de la ville, pourrait-on dire, nous avons un correspondant Open Data qui est chargé de la détection des données, de la remontée et in fine de leur publication. On a mis en place également des indicateurs de suivi pour les directions, c'est-à-dire qu'il y a, ou du moins il y aura dans les semaines qui viennent, un véritable pilotage par objectif, avec des objectifs chiffrés de publication de jeux de données, d'identification de certains jeux de données, etc. Et puis ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire un processus semi-automatisé ou en tout cas structuré, qui permet de suivre un jeu de données depuis sa première identification, tiens, ça pourrait être publié, jusqu'à la validation finale, en passant par toutes les étapes, et un espace collaboratif qui permet en ligne de gérer tout cela entre les différentes directions, le secrétariat général, etc. J'accélère un petit peu. Et puis, il y a le point essentiel de la validation, qui décide à quel moment que le jeu de données peut être publié. Et ça, c'est vraiment selon, je dirais, la sensibilité du jeu de données. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne posent absolument aucun problème et les directions prennent d'elles-mêmes la responsabilité de les mettre en ligne. Et puis, pour certaines, ça peut remonter soit au secrétariat général, soit à l'élu en charge, avec généralement une décision positive à la clé. Mais c'est vraiment c'est un dispositif assez flexible. Et puis, il y a évidemment tout le dispositif d'animation de la communauté. Alexandre en a déjà parlé. Nous avons nos propres projets, nos propres souhaits, et nous allons développer ça dans les mois à venir. L'avancement du projet, en quelques mots, nous avons aujourd'hui 72 jeux de données qui sont peu découpés, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de découper par arrondissement ou par quartier ou par thématique. Par exemple, le plan de voirie est constitué uniquement, l'intégralité du plan de voirie à Paris avec tout est constitué uniquement de quelques jeux de données. Donc pas de découpage, souvent des fichiers bruts, conformément à ce qui nous est demandé, et assez massif. On a 100 000 téléchargements, ce qui est pas mal pour quelque chose qui n'est pas directement à destination du grand public. Et puis, on a un travail d'animation sur le site avec des commentaires, des suggestions, des demandes. Et on se félicite d'avoir déjà un certain nombre de réutilisations, qu'il s'agisse d'applications sur téléphone mobile, de sites web, etc. Tout ça, évidemment, est visible sur opendata.paris.fr. Alors, quelques cas pratiques pour fixer les idées, des exemples très très concrets de ce qui peut être fait et de ce que ça a pu impliquer. Nous avons libéré des éléments du plan de voirie, notamment les trottoirs, le tracé du bâti, c'est-à-dire les bâtiments, les volumes bâtis, la hauteur des bâtiments, les pistes cyclables, etc. Publier tout ça en format géolocalisé, shape. Enfin, c'est pas des formats que vous et moi pouvons lire simplement, mais que les experts savent traiter. Qu'est-ce que ça a pu donner ? Ça a donné d'abord une amélioration de la cartographie communautaire à Paris. Vous savez qu'il existe OpenStreetMap, qui est dans le cas général, c'est-à-dire dans les villes, beaucoup plus précis que tous les autres outils cartographiques et qui est entièrement libre. C'est l'équivalent de Wikipédia pour la cartographie. Or, les gens d'OpenStreetMap ont pu utiliser ces données pour enrichir cette cartographie communautaire. Il y a évidemment la possibilité de faire ce qui n'existait que peu avant, du calcul d'itinéraire vélo. Aujourd'hui, vous calculez un itinéraire vélo, c'est un itinéraire voiture ou piéton qui vous est donné. Donc, on peut vraiment calculer des itinéraires vélo en utilisant les pistes cyclables. Et là-dessus, c'est un point intéressant, il y a également des pistes de recettes. C'est-à-dire que un grand acteur de la cartographie et de l'itinéraire nous a appelé un jour en disant « Ah bah, moi, je serais intéressé par les tracés de vos pistes cyclables. » On dit « Bah, bien sûr, opendata.paris.fr, tout ça est publié. Ah oui, alors comment ça marche pour la licence ?» Bah, voyez, au DBL, vous avez toute liberté, tant que vous faites cela et cela. Ah oui, mais moi, votre partage à l'identique, j'aime pas trop, je préférerais payer. Donc, mise en ligne libre et gratuite ne veut pas dire abandon total des recettes. Il y a toujours de grands acteurs pour s'inquiéter un petit peu de licences qu'ils ne maîtrisent pas totalement, etc. Et pour préférer payer. Donc, ça ne veut pas dire abandon de recettes. Et puis évidemment, création de valeur pour les entreprises. On a des startups qui sont par exemple spécialisées dans la diffusion de la pollution urbaine et qui utilisent cette cartographie en volume pour améliorer leur modèle dans Paris. Et ça, c'est un cas de réutilisation avéré. Et puis, on peut très bien imaginer qu'à terme, on puisse avoir une animation et un travail avec la communauté, et notamment les communautés de personnes à mobilité réduite, par exemple. Aujourd'hui, l'information d'accessibilité d'une rue, est-ce que je vais pouvoir passer avec mon fauteuil roulant dans telle ou telle rue? Est-ce que le trottoir est assez large? Est-ce qu'il n'y a pas du mobilier urbain qui m'empêchera de passer? Ça n'existe pas. Une personne en fauteuil ne peut pas calculer à l'avance son itinéraire. Elle ne sait pas où les trottoirs vont être surbaissés, elle ne sait pas où elle va pouvoir passer, etc. Et en organisant un événement particulier avec des personnes à mobilité réduite, des développeurs qui seront capables, eux, de réaliser le calcul entre le tracé du trottoir, le tracé des bâtiments, les emplacements du mobilier urbain, etc., on sera peut-être capable de mettre en place cette application qui serait un vrai plus pour les personnes à mobilité réduite. Je saute le deuxième cas pratique, vous pourrez le regarder, et j'en arrive à ma conclusion qui est beaucoup plus des éléments de perspective que je soumets à votre intelligence collective. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est essentiellement de l'archéologie des bases de données, c'est-à-dire qu'on est allé rechercher dans des systèmes existants, parfois depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années, pour extraire des données qui n'avaient pas nécessairement été conçues pour être extraites. Pour envisager une généralisation, le plus simple serait que, dès la commande publique, tout système d'information inclut d'office une problématique d'open data et la possibilité d'en extraire les données et de les publier simplement. Ça passe évidemment par les marchés publics. Il y a de larges difficultés, mais je vous renvoie là-dessus à un séminaire de l'APIE qui a eu lieu le 7 juin 2012, où visiblement un travail de grande qualité a été présenté, dont on s'inspirera, puisque nos juristes en interne, qui sans doute ne bénéficiaient pas de l'intelligence collective, nous avaient essentiellement identifié des difficultés plutôt que des possibilités. Donc on se reportera au travail de l'APIE. Ce qui est, entre parenthèses, l'occasion d'une meilleure gestion pour les administrations. C'est-à-dire qu'avoir un système dont on ne peut pas extraire les données, dont on ne peut pas réutiliser les données, c'est aussi se lier pieds et poings avec un prestataire au moment du renouvellement du marché. S'il n'y a que lui qui sait extraire les données de l'ancien système, eh bien c'est lui qui gagnera le nouveau marché. De la même façon, ça permet de supprimer les silos entre les administrations, puisque on sait très bien que les grandes administrations communiquent assez peu entre elles et que le partage de données et d'informations n'est pas toujours parfait. Les premiers réutilisateurs de données, ça a été dit tout à l'heure, sont les administrations elles-mêmes. Évolution technique vers du temps réel, ça pose aussi des problèmes de droit et de licence. Il y aura peut-être des choses à adapter, mais j'en dirai pas plus. Et il y a des points essentiels qui sont, à mon sens, les données des concessionnaires, des délégataires, des sociétés d'économie mixte et des prestataires. Globalement, nous sommes pour une compréhension au sens très large des données publiques. C'est-à-dire, selon moi, devraient être considérées comme données publiques toutes les données qui ont été constituées avec de l'argent public. Donc ça inclut les concessionnaires, les délégataires, etc. C'est pas forcément la vision de tout le monde. Mais il y a un véritable enjeu, on le voit bien à Paris, où la ville n'est pas l'autorité régulatrice du transport, il y a un véritable enjeu sur l'ouverture des données transport. Aujourd'hui, personne n'est capable de calculer un itinéraire réellement multimodal entre bus, tramway, métro, Vélib, Autolib, que sais-je. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, et notamment sur Vélib, alors on travaille avec eux, et sur la RATP par exemple. À mon avis, la résolution de ce sujet passe par l'évolution du cadre législatif qui pourrait, par exemple, imposer à l'ensemble des acteurs publics, mais aussi parapublics et délégataires, de publier ces données de la façon la plus libre possible. Mais ça, c'est un débat évidemment ouvert et législatif. Une dernière perspective, qui sera vraiment ma conclusion, Monsieur le Président.
Là, vous avez 30 secondes.
Oh bah très bien, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est que la vision de Jean-Louis Missika est que l'open data, l'ouverture des données publiques, n'est qu'une première brique vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux. C'est une base, c'est évidemment une base qui permet la création de services, j'en ai déjà parlé, mais c'est aussi l'ouverture vers une gouvernance plus ouverte. Aujourd'hui, on sait très bien que sur les grands projets urbains, comme parfois sur les débats législatifs, le débat et la concertation fonctionnent très mal. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne très mal ? Entre autres, parce qu'il y a une réelle asymétrie de l'information. C'est-à-dire que si on était dans une configuration de débat public, vous auriez de ce côté de la salle les sachants et les décidants, et de ce côté de la salle, les gouvernés et les ignorants. Ce qui ne crée pas les conditions pour un bon débat. Si vous n'avez pas la même information que moi, comment pouvez-vous avoir un argument construit ? À partir du moment où l'information est partagée et mise en valeur, on peut progresser vers un débat plus intelligent, plus informé. Et du coup, une réelle discussion et une réelle démocratie. Donc, de nouvelles modalités de concertation, mais qui nécessitent évidemment de trouver des intermédiaires, puisque la donnée brute n'est pas accessible à tout le monde. Donc, il y a cette constitution d'un écosystème qui feront des visualisations de ces données, qui feront des interprétations de ces données. Ça peut être des journalistes, mais ça peut être aussi des collectifs citoyens, etc., qui vont réellement jouer un rôle de médiateur de la donnée entre le producteur et son consommateur final, qui est le citoyen. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Faure. À la fois.